RFI 20h30 à Kinshasa, 22h30 à Mamoudzou.
Afrique Soir sur RFI.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Des quartiers dévastés, de nombreux toits en tôle envolés. La situation est catastrophique à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Au moins 2 personnes sont mortes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger au centre des discussions des chefs d'État de la CEDEAO. Ils se réunissent demain à Abuja alors que les États du Sahel ont réaffirmé hier leur intention de se retirer de l'organisation ouest-africaine. Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se rencontrer demain à Luanda en Angola. Une rencontre de premier plan pour tenter d'avancer vers une paix durable dans l'est de la RDC. Un rendez-vous qui est le fruit de plus de 2 années de tractations diplomatiques. Cette manifestation aujourd'hui à Abidjan pour réclamer une meilleure prise en compte des féminicides par la justice ivoirienne. Et puis du football, le TP Mazembe reste à la 3e place de son groupe en Ligue des Champions après son match nul 1 partout contre les Young Africans de Tanzanie. Des vents à plus de 200 km par heure. Le cyclone Chido a frappé aujourd'hui Mayotte, ce territoire français dans l'océan Indien. Après être passé à 70 km des côtes malgaches hier, l'œil du cyclone a donc traversé l'archipel tôt ce matin. C'est le cyclone le plus violent qu'a connu Mayotte ces 90 dernières années, laissant derrière lui un paysage de désolation. Au moins 2 personnes sont décédées et les dégâts sont énormes. 1600 policiers et gendarmes sont déployés pour venir en aide à la population. Les besoins sont colossaux car près de 100 000 habitants, soit un tiers de la population, vit dans des habitats précaires, dans des cases en tôle dont les toits se sont envolés. Écoutez Madi Madissouf, le président de l'association des maires de Mayotte.
La situation est vraiment catastrophique, mais si je dis catastrophique, c'est vraiment, je pèse les mots. Tout le flanc de Mamoudzou, Kaweni, 90% des maisons en tôle sont par terre. Pourquoi ? Parce que vous savez que 60% des maisons sont en tôle. Donc tout est arraché, même les bâtiments administratifs, les établissements scolaires. Il y a des images pour le lycée Inoussa Bamana, tout le toit aussi est parti. Et une partie aussi des poteaux électriques tombés par terre, on ne peut même pas circuler. On a réquisitionné les gymnases, les collèges et les lycées. Tous ces établissements étaient prêts à recevoir des hébergements précaires. Mais comme vous le savez, il y a toujours des gens qui étaient réticents, ils ne veulent pas quitter leur habitation. On a l'estimation tout à l'heure de la préfecture qui comptabilise toutes les données des 17 communes de Mayotte.
Des propos recueillis par Baptiste Coulon. Le cyclone Chido a aussi touché 2 îles des Comores voisines, mais moins durement. Des mosquées, des habitations ont été inondées, des embarcations emportées par les vagues. Le cyclone se dirige à présent vers les côtes mozambicaines. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont réaffirmé hier leur volonté unilatérale de sortir de la CEDEAO. La position des 3 États sahéliens sera au cœur des discussions des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine. Ils se réunissent demain à Abuja. Les précisions de notre correspondant Moïse Gomis.
De tous les rapports prévus dans l'agenda du sommet, celui de la médiation du Sénégal auprès des 3 pays de l'AES va cristalliser toutes les attentions demain à Abuja. Car c'est bien en fonction du compte-rendu du président Bassirou Diomaye Faye que les chefs d'État de la CEDEAO vont devoir sortir de leur prudente réserve et ils devront faire face au risque de désintégration de l'organisation ouest-africaine. Dans un communiqué de presse publié hier soir sur les réseaux sociaux, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont été fermes. Ils ont rappelé le caractère irréversible de la décision de leurs pays respectifs de quitter la CEDEAO. Les chefs d'État de l'organisation ouest-africaine devront donc se prononcer à la suite de la lecture du mémorandum par leur envoyé spécial. Et probablement ce débat autour des 3 pays de l'AES devrait éclipser tous les autres sujets prévus, car la CEDEAO n'a jamais été confrontée dans ses bientôt 50 ans d'histoire à une résolution de sortie de 3 pays membres et fondateurs. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Au Bénin, une dizaine de terroristes à moto a attaqué le commissariat de Firou dans la commune de Kérou, dans le nord-ouest du pays la nuit dernière. Un véhicule de police a été touché par des tirs. La riposte de l'armée a permis de neutraliser deux assaillants et de saisir des armes. Cette autre rencontre au sommet demain à Luanda en Angola, Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se retrouver sous l'égide du président angolais João Lourenço pour tenter de mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où s'affrontent les forces congolaises et leurs alliés et le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Alors, que peut-on espérer de ce rendez-vous ? Élément de réponse avec Jason Stern qui dirige le groupe d'études sur le Congo rattaché à l'Université de New York.
Il est possible qu'il y ait quelque chose assez vague. Je pense que les contours de cela, le Rwanda, la RDC, ils seraient d'accord de signer quelque chose assez vague. Je reste sceptique parce que le Rwanda n'a fait que renforcer son effectif à l'est de la RDC et il y a, si on doit juger par le passé, dans le passé, le Rwanda, dans la situation similaire, a seulement agi lorsqu'il y avait des pressions très concrètes, matérielles sur elle. Cette pression n'est pas là, ni au niveau diplomatique, ni au niveau économique, je dirais. Et l'acteur principal étatique qui critique le Rwanda, les États-Unis, est lui-même en train de subir une transition. Et l'arrivée de Donald Trump, je ne pense pas que ça va mettre davantage de pression sur le Rwanda. Donc c'est pour cela que je reste un peu sceptique par rapport à l'issue de cette rencontre.
Le chercheur Jason Stern au micro de Paulina Zidi. Au Sénégal, le gouvernement fera toute la lumière sur les dizaines de morts lors des violences politiques entre 2021 et 2024. Des dizaines de personnes ont été tuées, des centaines d'autres arrêtées. Une loi d'amnistie avait été votée en mars dernier à l'initiative de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Mais devant les députés, le ministre de la Justice a indiqué aujourd'hui que ces morts ne devaient pas rester impunies et que ce serait un mauvais signal. En Côte d'Ivoire, réclamer une meilleure prise en compte des féminicides par la justice. En 2020, 416 cas avaient été recensés dans la seule capitale économique ivoirienne. Alors une manifestation a eu lieu aujourd'hui à Abidjan, dernier événement de la campagne contre les violences basées sur le genre. Après 16 jours d'activisme, plusieurs associations ont donc défilé ce matin. Reportage de Benoît Almeras.
Ils sont peu, mais ils se font entendre. Sous l'œil des automobilistes, une trentaine de militantes et militants habillés de noir et mégaphones à la main. Ils manifestent sur le pont Alassane Ouattara en mémoire des victimes de féminicide.
Même si on est deux, on va marcher. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire entendre nos voix et la voix de celles qui n'en ont plus.
Mégane Boho est présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes.
On demande que le thème féminicide soit mis dans le cadre légal. Le fait de voir des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes, c'est un féminicide. Il faut le nommer. Comment on peut lutter contre quelque chose si on ne le nomme pas ?
Ces associations féministes réclament aussi des statistiques actualisées et officielles sur les féminicides en Côte d'Ivoire pour mieux combattre le phénomène. Leur message et leur colère font mouche chez les badauds, comme Thierry, qui sort d'une église avec sa fille Camilla.
J'aimerais bien connaître les chiffres parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait mal et que je souhaiterais que les autorités, la justice, fassent en sorte que ces violences puissent disparaître.
L'an dernier, près de 8800 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés et pris en charge, selon les chiffres globaux des autorités ivoiriennes. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
En football, toujours pas de victoire pour le TP Mazembe en phase de poule de la Ligue des Champions. À l'occasion de la troisième journée, les Corbeaux ont été tenus en échec un partout à Lubumbashi par la lanterne rouge du groupe A, les Young Africans de Tanzanie, avec un but égalisateur concédé dans les arrêts de jeu. Écoutez Cheikh Fofana, c'est lui qui avait ouvert le score.
Ça fait longtemps que j'ai pas marqué en Champions League, donc quand j'ai marqué, j'ai dit, voilà, ça y est, c'est le début de la saison, tu vois, c'est ma chance aujourd'hui, il faut que j'en profite. Ça fait du bien qu'un attaquant marque, ça lui donne beaucoup de confiance pour la suite. Comme vous voyez, ça fait deux matchs qu'on perd les points à la dernière minute, donc ça fait mal, c'est crucial. Disons, c'est la fatigue, vu le dernier match, les voyages qu'on a fait, tout et tout, donc. Ça nous suit un peu. Moi, je crois que c'est ça. Sinon, physiquement, on est bien. N'importe quelle équipe, nous, on les tient physiquement. Donc, C'est à nous de travailler maintenant. Ce n'est pas la fin de la compétition. On doit travailler plus pour ne pas commettre ce genre d'erreur encore. Comme l'année passée, on a fait. Pourquoi pas ne pas gagner à l'extérieur si on n'a pas pu gagner chez nous? C'est à nous de nous battre maintenant pour aller gagner à l'extérieur. Tout est possible. C'est le foot.
Dans les autres matchs du jour, Maniema, deuxième club congolais, a aussi concédé le nul face à l'AS Far de Rabat.